Dossier Ukraine, l'engrenage. La neutralité, une arme pour la paix. Par Philippe Descamps. Le Monde diplomatique, avril 2022. Lu par Blaise Petitbonne.
À moins que le monde ne roule vers la catastrophe, seul un règlement politique pourrait rétablir la paix. L'accord aurait pour objet d'établir et de garantir la neutralité des peuples de l'Indochine et leur droit de disposer d'eux-mêmes tels qu'ils sont effectivement, et chacun étant responsable entièrement de ses propres affaires. Dans son discours de Phnom Penh contre l'intervention américaine au Vietnam, le 1er septembre 1966, le général de Gaulle avait esquissé une solution qui aurait sans doute évité 9 années supplémentaires de combats. Après la guerre du Dniestr, opposant l'État central aux forces de Transnistrie, soutenues par l'armée russe durant le printemps 1992, la Moldavie opta pour cette solution. L'ancienne République soviétique décida d'inscrire la neutralité permanente dans sa constitution, adoptée en juillet 1994. Elle s'y tient en dépit des alternances politiques, alors que les changements de majorité ont conduit l'Ukraine voisine à tergiverser sur la question de ses alliances depuis la fin de l'URSS. Le 5 mai 1992, devant faire face à une première déclaration d'indépendance de la Crimée, qui se conclut alors par un compromis institutionnel, Kiev refuse d'adhérer au traité de sécurité collective signé 10 jours plus tard à Tachkent entre la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie, le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. En 1997, Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan et Moldavie fondent l'Organisation pour la démocratie et le développement, ou GUAM, reprenant l'initiale de chaque pays, avec l'ambition de se rapprocher de l'Union européenne. Après la Révolution des Roses de novembre 2003 en Géorgie et la Révolution Orange de novembre 2004 contre l'élection de M. Viktor Yanukovych en Ukraine, ces deux pays demandent leur rattachement à l'OTAN. Mais la France et l'Allemagne s'opposent à la fixation d'un calendrier pour cette adhésion. De retour au pouvoir en février 2010, M. Yanukovych fait adopter une loi sur la neutralité, interdisant au contraire toute participation de son pays à une alliance militaire. Après son renversement en 2014, le Parlement élu annule la loi sur la neutralité, puis adopte en juin 2017 un autre texte faisant de l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN un cap stratégique de la politique étrangère et de sécurité. Cet objectif figure dans la Constitution amendée en 2019. C'est l'un des éléments clés ayant nourri l'agitation obsidionale de Moscou, alors que la neutralité aurait probablement évité l'escalade et cette invasion contraire à tous les engagements internationaux de la Russie. Y revenir nécessiterait de trouver une majorité qualifiée au Parlement, ce qui ne sera guère plus facile que le choix d'une forte décentralisation incluant un statut spécial pour les régions du Donbass. Au cours de l'histoire, la neutralité fut souvent associée à la situation d'État tampon, qui représentait autant de champs de bataille entre puissances européennes. Après les guerres napoléoniennes, le traité de Paris du 20 novembre 1815 apportait aussi une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse, lui ouvrant 2 siècles de non-belligérance. Lors de son accession à l'indépendance, la Belgique s'est ainsi vue imposer par les traités de Londres de 1831 et 1839 un État indépendant et perpétuellement neutre. En introduisant cette clause, les cours d'Autriche, de France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie permirent au royaume de connaître 8 décennies de paix, lui épargnant notamment d'être partie prenante de la guerre franco-allemande de 1870. Jusqu'au XXe siècle, le droit de la neutralité relevait de la coutume. Il a trouvé un cadre juridique protecteur pour les petits pays dans les conventions de La Haye du 18 octobre 1907. Un État neutre s'engage à ne pas participer militairement à un conflit avec d'autres États en contrepartie du respect de son intégrité territoriale. Il s'engage à ne pas soutenir les belligérants par des moyens humains, matériels ou en mettant à disposition son territoire, y compris son espace aérien. Cela l'oblige ainsi à se doter des capacités de se défendre militairement contre toute attaque. Cet instrument de politique étrangère peut être temporaire, à l'occasion d'un conflit particulier, ou permanent. La neutralité se distingue du non-alignement qui résultait à l'origine de la volonté de nombreux États du Sud d'échapper durant la guerre froide à la logique et à l'influence des deux blocs, américains et soviétiques. Issue de la déclaration commune de Gamal Abdel Nasser, Josip Broz, dit Tito, et Jawaharlal Nehru, en 1956, le mouvement des non-alignés, MNA, existe toujours. Mais il n'engage guère ses adhérents et compte très peu de pays neutres. Seul pays européen actuellement membre, la Biélorussie fait aussi paradoxalement partie de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, OTSC. Cette structure de défense commune reste sous la coupe de la Russie, dont les troupes ont utilisé le sol biélorusse pour rouler vers Kiev. Malte et Chypre ont quitté le MNA en entrant dans l'Union européenne, mais sont restés neutres. L'Ukraine, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie en demeurent observatrices. Ce dernier pays a opté pour la neutralité en 2007, après le conflit du Kosovo. Le principal défi pour les pays neutres consiste à obtenir les garanties du respect de leur statut, souvent bafoué par le passé. En 1798, les troupes françaises du Directoire envahirent la Suisse sans tenir compte de sa tradition déjà séculaire. Le 2 août 1914, l'Allemagne adressa un ultimatum à la Belgique exigeant un droit de passage. Deux jours après, les troupes de Guillaume II déferlaient sur le plat pays, violant également la neutralité du Luxembourg. Garante du traité de 1831, la Grande-Bretagne entra en guerre pour soutenir Bruxelles. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie ne se gêna point pour envahir plusieurs pays neutres, Norvège, Pays-Bas, Belgique, Danemark, ainsi que la Yougoslavie et la Grèce avec son allié italien. L'Union soviétique fit de même dans les pays baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, en Bessarabie roumaine, et tenta de prendre la Finlande. Le Royaume-Uni envahit l'Islande. Bulgarie et Turquie renoncèrent d'elles-mêmes à leur neutralité temporaire. En 1969 encore, les États-Unis bombardèrent le Laos et le Cambodge, entraînant ces deux États neutres dans le conflit vietnamien avec les dégâts que l'on connaît. Toutefois, plusieurs pays ont su préserver leur neutralité dans des périodes extrêmement difficiles, non sans quelques accommodements avec leurs principes démocratiques. Ce fut notamment le cas de la Suède et de la Suisse durant les deux guerres mondiales. Outre un moindre intérêt stratégique, comme pour l'Irlande sortie meurtrie de sa guerre civile, ces deux pays ont su se donner les moyens militaires de défendre leur territoire. L'armée de milices de la Confédération helvétique représente une dissuasion non négligeable. La Suède a rétabli la conscription en 2017, après l'avoir supprimée en 2010, et entretient à grands frais une production d'armes. État tampon durant la guerre froide, la Finlande et l'Autriche ont obtenu, dans les années 1950, des garanties venant des deux blocs pour le respect de leur neutralité, armée elle aussi. Approche réaliste pour un petit pays en matière de politique étrangère, la neutralité confère à certains de ces États un rôle diplomatique sans commune mesure avec leur poids dans la démographie ou l'économie mondiale. Essentiel à l'équilibre des forces et à la coexistence pacifique en éloignant les menaces, ils ont apporté à de nombreuses reprises la possibilité d'un dialogue, et pas seulement entre les deux grands. Ce fut notamment le cas avec la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, CSCE, qui eut lieu de juillet 1973 à août 1975 à Helsinki et Genève. Point d'orgue de la détente, l'acte final d'Helsinki jeta les bases d'une paix durable en Europe, dans le respect de la souveraineté et des droits des peuples, de l'intégrité territoriale des États, mais aussi des droits de la personne et des libertés fondamentales. Autant de proclamations pas toujours suivies d'effets, mais qui pourraient dessiner aujourd'hui le cadre d'une sortie de crise. À la suite de l'effondrement de l'Union soviétique en décembre 1991, la CSCE permit notamment d'obtenir de la Biélorussie, du Kazakhstan et de l'Ukraine l'abandon des armes nucléaires implantées sur leur sol et leur transfert vers la Russie. En échange de l'adhésion de ces trois pays au traité de non-prolifération des armes nucléaires, TNP, le mémorandum signé à Budapest le 5 décembre 1994 engageait la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis à respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières de l'Ukraine. On comprend pourquoi Kiev demande aujourd'hui des garanties de sécurité beaucoup plus robustes. Une neutralité durable apparaît difficilement compatible avec la démilitarisation également réclamée par la Russie. Choisie depuis la fin de la guerre froide par le Turkménistan, la Mongolie, la Moldavie ou la Serbie, le statut de pays neutre demeure méconnu, voire méprisé. Strictement militaire, il s'accompagne pourtant d'une grande latitude en matière politique. Il n'a pas empêché par exemple la Suède, l'Autriche et la Finlande de devenir membres de l'Union européenne en 1995. il n'interdit pas les partenariats pour des exercices conjoints avec l'OTAN pour la Suède et la Finlande, l'OTAN et l'OTSC pour la Serbie. Il n'interdit pas non plus de s'associer à des missions de maintien de la paix, voire à des mesures militaires coercitives, à condition que celles-ci émanent de la seule instance légitime en droit international, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis l'écrasement du printemps de Prague, en 1968, jamais la crainte d'un expansionnisme russe n'aura marqué autant les Européens. L'invasion de l'Ukraine a déclenché une réaction réflexe en faveur de l'OTAN, pourtant impuissante. Les enquêtes d'opinion ont enregistré une poussée de fièvre chez les Suédois et les Finlandais, traditionnellement opposés à une adhésion au pacte atlantique, et devenant brusquement favorables à celle-ci. Le président conservateur de la Finlande, M. Sauli Niinisto, a toutefois appelé ses concitoyens à garder la tête froide. Première ministre de Suède, la social-démocrate Magdalena Andersson a également tempéré les ardeurs des va-t-en-guerre de l'opposition. Si la Suède demandait son adhésion à l'OTAN dans la situation actuelle, cela déstabiliserait davantage encore cette région de l'Europe et accroîtrait les tensions. Ces deux pays coopèrent toutefois militairement de plus en plus étroitement avec les États-Unis. On ne peut exclure que cette coopération comporte un volet secret d'assistance en cas de péril imminent, ressemblant à celui liant la France et la Suisse en 1940, qui fut révélé par hasard aux Allemands. Peu avant l'invasion de l'Ukraine, une ancienne présidente de la Confédération helvétique et du Conseil de l'Europe, Madame Micheline Calmy-Rey, avait fait une proposition audacieuse en ces temps belliqueux. Pour être à la hauteur des valeurs qu'elle proclame et gagner une autonomie stratégique, l'Union européenne devrait devenir une puissance neutre et non alignée, indépendante et non agressive entre les blocs. Une neutralité active serait aux yeux de Madame Calmy-Rey l'instrument idéal pour la difficile convergence des intérêts de l'ensemble des États membres, comme ce fut le cas pour les cantons suisses. Devenir une puissance politique et militaire lui permettrait de ne pas se soumettre à un bloc ou à un autre, explique-t-elle, de mieux résister aux pressions, de ne pas subir, de ne pas sombrer dans les communiqués lénifiants aux seuls effets de mots, à ne pas se cantonner dans une posture de passivité et d'immobilisme. Cela permettrait de satisfaire plus facilement la volonté de l'Ukraine d'entrer dans l'Union, voire une candidature de la Suisse.
Le monde diplomatique. On s'arrête, on réfléchit.